trois panélistes renommés pour faire la lecture d'une boule de cristal embuée, presque opaque. Jean-Philippe Gervais, vice-président et économiste agricole en chef à FAC, Financement Agricole Canada.
C'est vraiment en ce moment, selon moi, une situation là, à deux vitesses où on a croissance assez appréciable dans le secteur et puis, encore une fois, un secteur qui est soumis à de fortes pressions économiques.
Richard Ouellet, professeur de droit économique international à l'Université Laval.
Sans être moi-même un économiste, je lisais dans les journaux d'affaires de la fin de semaine qu'on anticipait peut-être une reprise en W en deux temps. Donc, ça aussi, c'est peut-être à craindre et ça nous laisse peut-être penser que nos gouvernements vont passer à travers en termes de déficit et de dépenses plus difficilement. On a affaire à une économie mondiale où s'opérait déjà, avant la pandémie, un repli protectionniste. C'était commencé, bien sûr, avec les États-Unis, mais c'était commencé en Europe, c'était commencé ailleurs dans le monde. Et plusieurs économies retournent un peu sur leur camp à soi. On essaie de plus en plus de consommer local. La pandémie, elle, a amené un élément additionnel en termes de commerce international. Elle a amené une nouvelle forme de protectionnisme qu'on ne voit pas souvent. Ce sont les restrictions à l'exportation. On aime avoir chez soi ce dont on a besoin chez soi. C'est particulièrement vrai en matière agricole. On a vu à l'Organisation mondiale du commerce des dizaines d'États déposer des mesures, notifier les autres pays qu'ils allaient appliquer des mesures de restriction des exportations pour le matériel médical, pour tout ce qui est relatif à la fabrication des vaccins, pour les appareils respiratoires, mais aussi pour certaines denrées alimentaires. Donc maintenant, le protectionnisme prend une nouvelle forme qu'on appelle le précautionnisme. C'est-à-dire que par précaution, on veut s'assurer qu'on a chez soi ce dont on a besoin pour être capable de se relever sans trop de mal de la crise.
Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et associé au cabinet McCarthy-Tétrault.
C'est la première fois dans notre histoire que nous avons une récession qui nous arrive du secteur des services. Nous avons vécu en 2008-2009 une récession qui venait du secteur de la finance. Et l'économie était en récession, des secteurs manufacturiers, immobiliers, tech, mais des services, c'est nouveau. C'est très vaste, très varié, avec des entreprises qui sont petites, qui sont grandes, mais c'est beaucoup plus, c'est très différent. Et la crise actuelle, en passant, pour le Canada, c'est très différent, mais ça nous arrive à une vitesse sans précédent. C'est différent de tout ce qu'on a vécu. Il y a une profondeur qu'on n'a jamais vécue auparavant. Alors que la grande récession de 2008-2009 était déjà très dure. Et la particularité au Canada, il y a deux choses qui nous distinguent des autres pays. D'abord, les consommateurs au Canada étaient très endettés en entrant dans la récession si on se compare à d'autres pays. Le niveau personnel de dette était à des niveaux records. Le deuxième, c'est le secteur de l'énergie au Canada qui représente, bon an, mal an, entre 7 et 10 % de notre économie. 25 % presque de nos exportations étaient également en difficulté. Ça, c'est les deux particularités de l'économie canadienne. Maintenant, phase 2, c'est la réouverture que nous vivons en ce moment et qui est frappée par la deuxième vague. On ne sait pas où la deuxième vague va nous mener, honnêtement. Le New York Times écrivait un papier qui nous rappelait que quand on a quitté nos bureaux au mois de mars, pour ceux qui sont dans les bureaux, on pensait revenir le 1er septembre. Puis là, ben, on est au mois d'octobre, on s'est dit on va revenir le 1er janvier. Mais là, c'est le 1er juillet 2021, la date anticipé de retour. Et à mon avis, ça va être dur. Maintenant, en sortant de la crise, qu'est-ce qui va être difficile? Le gouverneur de la Banque du Canada a signalé, lui, que ça allait être probablement une reprise plus difficile que prévu. Le Fonds monétaire international, la semaine dernière, nous apprenait qu'à ce jour, il s'est dépensé presque 12 trillions de dollars en programmes de soutien aux revenus, pas de dette, juste en soutien. Ça représente environ 12 % du PIB mondial. Et à comparer de 2008-2009, c'était 2 % du PIB mondial. C'est dire à quel point les chiffres sont gros. Et là, il y a l'espoir. La troisième phase serait le vaccin, qui pensait au vaccin comme une métaphore, mais honnêtement, personne ne sait quand un vaccin arrivera. Alors, on va cheminer, je pense, vers une période où on ne va pas refermer l'économie, mais où il faudra apprendre à vivre et à tolérer un niveau de risque qu'on n'a pas connu auparavant, tout en protégeant des populations vulnérables. À mon avis, les gouvernements, c'est là vers ça qu'ils veulent nous amener. Et en attendant, ils devront continuer à soutenir des secteurs qui sont fortement affaiblis, à défaut de quoi l'économie, pour certains secteurs, va complètement s'effondrer.
Il faut donc éviter l'effondrement. Il y aura de bonnes bourrasques, mais tout de même des vents favorables. Un extrait de la discussion entre les trois panélistes.
Dans les vents favorables, je pense que le secteur agroalimentaire est très prometteur. On n'arrêtera pas de manger. Il y a un bouleversement dans l'industrie parce que la restauration, l'hôtellerie se sont arrêtés, puis la consommation, oui. Puis ça commande des ajustements majeurs de l'industrie dans la transformation. Mais ça demeure encore, pour nous, un champ où il y a des opportunités extraordinaires. Alors ça, à mon avis, c'est très bon. Tout ce qui touche les technologies, René, intelligence artificielle, etc., c'est très bon. Moi, je travaille avec le secteur de l'aérospatial. Je suis très inquiet de voir que le gouvernement fédéral ne bouge pas là-dessus. Mais ça, c'est un secteur. Le secteur, honnêtement, pour y aller directement sur le sujet d'aujourd'hui, de l'agroalimentaire, est un secteur sur lequel on devrait tabler parce que les marchés sont encore très prometteurs, peu importe les circonstances économiques dans lesquelles nous sommes.
Dans votre tour, Richard Ouellet, qu'est-ce que vous voyez?
Monsieur Charest et moi sommes en communion d'esprit quant au secteur où on pourrait opérer notre lance. Effectivement, le secteur alimentaire est certainement le secteur où on a de la marge. C'est un secteur où il n'y a pas beaucoup de compression possible. On n'annoncera pas à nos familles qu'on va manger une fois par jour au lieu de trois. Il va falloir donc investir en nous-mêmes, investir dans notre économie agricole et que le consommateur change ses habitudes. Moi, j'ai bon espoir que le consommateur change un peu ses habitudes. Le consommateur québécois a un comportement qui est bon, mais qui pourrait, quand on le compare à celui de bien d'autres pays, pourrait être modifié, pourrait être davantage axé sur la consommation locale. Nos gouvernements ont commencé, le gouvernement du Québec notamment, a commencé à faire valoir un peu cet argument-là, puis à inciter les gens à consommer un peu plus local. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un levier de relance intéressant et important. Pour ce qui est de la haute technologie, tout ce qui touche les technologies qu'on est en train d'utiliser en ce moment même en nous parlant à distance, le Québec est un pilier là-dedans, le Québec est un acteur de premier plan. Il va falloir développer ça. Quant à nos faiblesses, c'est sûr que l'industrie manufacturière, notre économie est beaucoup basée sur le manufacturier. Et ça, la levée de protectionnisme et l'accentuation de ce protectionnisme-là ne va pas aider notre économie, c'est certain. Nos petites et moyennes entreprises qui sont dans ce secteur-là risquent de pâtir longtemps de la situation qu'on traverse.
Si on exclut, comme vous l'avez dit, la transformation alimentaire.
Oui, absolument. Hors du secteur agricole, oui.
D'ailleurs, il y a un élément intéressant. Ce matin, il y a le Canadien National qui présentait ses résultats financiers, des résultats qui étaient en demi-teinte. Il y a un domaine où les volumes ont été plus importants que ce qui avait été anticipé, et c'est dans le domaine alimentaire, les grains, tout le reste. C'est à peu près ça qui a tenu le chemin de fer. Alors, il faut dire que c'est un phénomène qu'on voit un peu partout à travers le pays. Et M. Gervais, donc, pour finir cette espèce de tour d'horizon, qu'est-ce que vous voyez?
Brièvement, je vais saisir la balle au bon. C'est évident que dans le secteur alimentaire, la transformation alimentaire, il y a énormément de potentiel. Vous parliez des denrées primaires agricoles. On a encore beaucoup de potentiel, encore beaucoup de place pour transformer encore plus de produits agricoles québécois, canadiens, ici même. Un des gros enjeux, c'est certainement l'enjeu de la productivité. Loin de moi de minimiser le fait que le contexte d'affaires est très instable et très incertain, absolument. Mais somme toute, si on regarde les variables économiques, il y a des variables économiques financières qui sont quand même assez favorables à l'investissement pour les entreprises qui sont capables peut-être de passer outre l'incertitude, de voir d'être dans des marchés où on était capable de pivoter, peut-être être moins exposé aux aléas, aux fluctuations des services alimentaires, travailler avec la grande distribution, c'est difficile. Il y a beaucoup de pression sur les marges. On aura probablement l'occasion d'y revenir. Mais côté productivité, si on regarde, les taux d'intérêt vont rester bas pour une longue période de temps, très longue période de temps. Je pense qu'ils ont probablement atteint un creux, par contre, présentement, mais ils vont rester à ce niveau pour un certain temps. L'enjeu de la devise, on a une devise qui, somme toute, est favorable en ce moment. C'est sûr que lorsqu'on parle de devise, il y a certaines entreprises qui préfèrent évoluer dans un contexte de dollars élevé parce que, s'il y a de l'équipement à aller acheter à l'étranger, si les matières premières sont fonction des devises étrangères, mais somme toute, règle générale, en transformation alimentaire, on préfère un contexte, un environnement d'affaires où le dollar canadien reste plus faible que haut. Présentement, si vous voulez mon opinion, personnellement, je pense que le dollar canadien est un peu plus élevé qu'il devrait l'être, si on regarde les données fondamentales. Donc, de ce côté-là, il y a encore une perspective d'investissement pour aller chercher une productivité. On a des problèmes de main-d'œuvre, mais le niveau de productivité est définitivement une variable à surveiller en termes de perspective de croissance.
La reprise sera donc difficile, probablement chaotique même. Là-dessus, Richard Ouellet, professeur de droit économique international, et l'avocat Jean Charest, ancien premier ministre du Québec.
L'un des effets que j'aime enseigner à mes étudiants, c'est que la mondialisation des marchés a fait que quand une région du monde est en difficulté, souvent ce sont les autres régions du monde qui lui permettent de garder le rythme jusqu'à un certain point. Donc, on a évité les grandes récessions globales en large partie depuis 50 ans, grâce à cela. Maintenant, puisque tout le monde a plongé, il s'agira de voir si on est capable de s'accrocher à celui qui se relèvera le premier. Est-ce que ce sera l'Asie, la Chine en tête? Est-ce que ce sera l'Europe? Certainement pas. Il semble pas que ce soit l'Amérique du Nord non plus. Il n'en reste pas beaucoup. Donc, il se peut qu'on doive axer la relance sur la confiance des consommateurs, sur le fait qu'on sort de la pandémie, qu'on peut recommencer à investir, recommencer à dépenser, recommencer, ne serait-ce que recommencer à s'amuser un peu pour que l'économie soit un petit peu relancée, que les gens aient la capacité de dépenser et le coût de dépenser. Mais ça, tout dépendra, puis là aussi, la boule de cristal reste assez opaque, ça dépendra de ce qu'on nous annonce. Est-ce que le vaccin approche? Est-ce que le confinement est plus ou moins important? Est-ce que nos gouvernements ont des capacités de relance ou pas? Ça va beaucoup influencer, évidemment, la confiance du consommateur et de l'épargnant et de l'investisseur. Et c'est ça qui va être, je pense, la clé. Mais une précision précise, j'en ai pas davantage que ça à vous annoncer. Si j'avais la clé, peut-être que je candidaterais pour le prix Nobel d'économie, mais je suis loin, loin, loin de ça.
Monsieur Charest, vous, comment voyez-vous cette reprise? Est-ce qu'il y aura reprise? Est-ce qu'on peut être optimiste? Est-ce qu'il faut rester vraiment très prudent? Là, votre opinion?
Inégal, avec des progrès, des reculs, des secteurs qui vont souffrir terriblement. Je pense au secteur des services nouveaux. D'autres secteurs qui vont connaître une croissance. On parlait d'agroalimentaire, il y a les ressources naturelles, vous savez. La Chine est en très forte demande actuellement de ressources naturelles. C'est eux qui sont les principaux. Le grand client sur la planète, c'est toujours la Chine, c'est toujours l'Asie. Il y a les énergies, énergie verte, etc. Il y a ces domaines-là. Et c'est ce que le gouvernement fédéral veut, par exemple. Le gouvernement fédéral va conjuguer ses politiques climatiques avec la reprise économique. Ils vont chercher à marier les deux. Mais je veux répondre à votre question, puis j'espère être pas trop pessimiste. On est à une dizaine de semaines de 2021. 10 semaines.
À peine.
Moi, je ne vois pas de reprise avant la deuxième partie de 2022, honnêtement, là, avant qu'on puisse avoir... Et là, il y a beaucoup de travail à faire de la part des gouvernements pour faire une planification qui est davantage dans le temps. Maintenant, la France vient d'annoncer 1 milliard de plus d'euros par rapport aux 26 milliards. Les États-Unis, bien là, c'est une grande question. Si Biden est élu, il va faire un programme très agressif d'investissement en infrastructure et dans l'économie verte et des enjeux comme le Border Adjustment Tax, Carbon Border Adjustment Tax, sur lequel nous, vous surveillez très près son application. Mais si Biden est élu, je suis plutôt optimiste. Et l'autre effet pervers de l'élection de Biden, c'est qu'il va rendre le Canada plus compétitif. Il va augmenter les taxes corporatives de 21 % à 28 %. Alors que Trump les avait baissés de 35 à 21, nous, on était dans la moyenne de 25 fédérales provinciales conjuguées. Puis, il va augmenter les impôts sur les gens qui gagnent 400 000 $ et plus. Puis, il va investir dans les infrastructures, va stimuler l'économie. La majorité des économistes américains semblent croire que le programme Biden, au net, aura un effet plus positif que négatif sur l'économie. Puis, les retombées sur le Canada peuvent être positives. L'autre grande économie à surveiller, c'est la Chine. Puis ça va être la seule économie cette année qui va être en croissance. La seule grande économie. À environ 6 %, ce qui est entre 5 et 6 %. Ce qui est étonnant, mais c'est notre deuxième partenaire économique le plus important, la Chine. On a beau chicaner avec eux, là. Honnêtement, c'est notre deuxième partenaire économique le plus important et un gros marché pour l'agroalimentaire.
Ici Lionel Levac. Personne ne sait vraiment ce qui s'en vient. Mais il y a suffisamment d'éléments perturbateurs dans le paysage pour affirmer que les prochains mois, voire les prochaines années, seront inquiétants et préoccupants. Au revoir.